Que le Seigneur vous bénisse et que ce soit pour chacun de vous aujourd'hui l'occasion de louer le Seigneur de tout votre cœur. Nous avons chanté tout à l'heure, Johan a choisi un chant, Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Son angoisse suprême, sa douleur, son tourment me disent « Vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. » Pourquoi je répète ces phrases, ces mots? Parce que le texte que nous allons méditer ce matin et qui représente le dernier chapitre de l'étude du livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes méditations, ce livre se compose de 4 chapitres. Nous avons vu donc les 3 premiers. Et nous avons dit au début de cette étude que nous pourrions intituler, donner un titre à chacun de ces chapitres avec un mot qui commence par la lettre R, comme Ruth. Premier chapitre, nous avons vu, c'était la résolution de Naomi. Je rappelle que c'était une famille qui avait désobéi à l'Éternel, qui avait quitté le pays d'Égypte parce qu'il y avait une grande famine dans le pays. Mais c'était une famille riche. Et ils étaient partis à l'étranger, et particulièrement dans le pays de Moab, qui était le pays ennemi d'Israël. Et ils n'auraient jamais dû aller habiter dans ce pays-là. Pourtant, c'est là qu'ils se sont retrouvés, Naomi, son époux Elimelec et ses deux enfants, ses deux fils, Machlon et Kiljon. Et dans ce pays de Moab, où ils sont restés quelques années, eh bien, Elimelec est mort. Machlon et Kiljon ont épousé des filles moabites et à leur tour, ils sont morts. Et ces deux jeunes filles sont restées veuves comme la belle-mère. Et ces 3 femmes se sont retrouvées en ce premier chapitre de ce livre. Et Naomi a décidé de revenir au pays parce qu'elle a entendu que dans le pays de Bethléem, l'Éternel avait donné du pain, avait donné du blé et il y avait maintenant de quoi manger. Alors, elle voulait retourner au pays. Et elle a dit à ses belles filles, écoutez, je n'ai pas la possibilité de vous donner d'autres héritiers pour remplacer vos époux décédés. Et alors, retournez chez vous, vers vos dieux, vers votre famille, vos familles, et soyez heureuses. L'une d'entre elles, Orpa, a baisé sa belle-mère et est restée au pays de Moab. Mais la seconde, Ruth, a dit « Non, où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton Dieu sera mon Dieu. » Et elle a donc suivi Naomi au pays de Bethléem. Et nous les voyons dans ce chapitre premier, à la fin de ce chapitre premier, arriver à Bethléem. Dans le chapitre 2, nous l'avons intitulé « Récompense ». Parce que Ruth a été invitée par sa belle-mère à aller travailler dans un champ pour glaner des épis. C'était la saison de la moisson des orges. Et elle a dit, où tu trouveras un lieu qui t'accueille, tu ramasseras, tu glaneras des épis entre les gerbes et tu verras, l'Éternel te conduira. Et effectivement, Naomi est partie Ruth est partie de la maison de Naomi. Elle est allée dans le champ d'un homme riche de la région où il y avait la moisson des orges et elle était embauchée pour ramasser les épis de blé qui étaient tombés entre les gerbes. Et elle a rencontré là le patron de cette propriété et qui s'appelait Boaz. Boaz qui veut dire en hébreu « en toi est la force ». Et nous avons dit que Boaz était la figure de Jésus-Christ. car la force est en Christ, nous dit un cantique, n'est-ce pas ? La force est en Christ. Elle a donc travaillé dans ce champ, elle a fait la connaissance de Boaz, ils se sont sentis attirés l'un par l'autre et le Seigneur a permis qu'elle puisse passer toute sa journée à ramasser des épis de blé et elle est rentrée le soir à la maison après avoir battu tous ses épis et avec une grande quantité, environ 30 litres d'orge battue pour pouvoir donner à manger à sa belle-mère. Le troisième chapitre nous parle de la soirée et nous l'avons appelé repos. Repos pourquoi ? Parce que Naomi a dit à sa belle-fille, « Va ma fille, tu vas aller et là où tu vas veiller le soir, tu vas regarder là où se couchera Boaz et tu iras te mettre à ses pieds. Et tu attendras et il te dira ce que tu auras à faire. » Et en effet, Boaz s'est réveillé au milieu de la nuit et une femme était allongée à ses pieds et elle lui a dit, il lui a dit, « Mais qui es-tu ? » Elle a dit, « Je suis ta servante, Ruth. » Alors, il y a eu un grand entretien entre les deux durant cette nuit-là. Ça a été une nuit mémorable pour elle. Et Boaz a dit que personne ne sache qu'une femme est entrée dans l'air pendant la nuit. Et avant que le jour se lève, elle est repartie à la maison, emportant avec elle encore de la nourriture que Boaz lui avait donnée, du blé et de la nourriture qu'elle avait pris avec les servantes et les serviteurs de Boaz. Elle est revenue chez elle et à la fin du chapitre 3, si vous avez la lecture sous vos yeux, nous lisons, elle dit, alors au verset 17 du chapitre 3, elle dit, Ruth dit à sa belle-mère, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et voilà donc que nous abordons ce quatrième chapitre. Et nous allons lire d'abord le texte et puis ensuite nous lui donnerons le titre que nous avons pensé être le bon. Donc chapitre 4, Boaz monta à la porte de quoi ? La porte de la ville. Et en effet, c'était à la porte des villes que se rendait la justice. C'est là qu'il y avait la réunion de toutes les personnalités de la ville, les notables, et c'est là que se rendait la justice. Alors il se rendit à la porte. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelec. J'ai cru devoir t'en avertir ou t'en informer et te dire acquière-la en présence des habitants et des et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas racheter, dis-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, par crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de sa porte et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte, les anciens et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, Ruth, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Puis les versets qui suivent, nous les verrons plus tard. Nous allons donc intituler ce chapitre Rédemption ou rachat. C'est le mot qui revient le plus souvent, rachat. Que veut dire rédemption ? Que veut dire rédempteur ? Rédemption. Alors, d'après les dictionnaires, j'ai pris les deux définitions, celui du Petit Robert et celui du Larousse. Alors, le Petit Robert dit ceci : rachat du genre humain par le Christ, rédempteur des hommes. Rachat, salut, l'action ou le fait de racheter quelqu'un, de se racheter, au sens religieux et moral. Et le petit Larousse dit, action de ramener quelqu'un au bien, de se racheter. C'est vrai que le mot rédempteur, le mot rédemption, ce n'est pas un mot que l'on emploie tous les jours. On n'entend pas souvent ce mot-là, et je suppose que beaucoup d'entre vous, parmi les jeunes, vous n'avez pas souvent entendu parler de rédemption morale ou spirituelle. Mais nous avons ce rédempteur merveilleux. Et nous nous souvenons de ce verset du livre de Job. Vous connaissez l'histoire de Job qui avait tant souffert, qui a été vraiment harcelé par l'ennemi, qui a connu la souffrance, qui a connu beaucoup de peine et de tristesse dans sa vie, qui a perdu tous ses enfants, qui a perdu tous ses biens, qui était malheureux à l'extrême. Il a dit un jour, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et mes yeux le verront, mes yeux, et pas ceux d'un autre. Chers amis, connaissez-vous ce rédempteur merveilleux, ce rédempteur adorable, comme nous l'avons chanté tout à l'heure? Il veut vous racheter. Il a payé un prix inestimable. Nous allons le voir dans la suite de cette étude. Nous avons lu dans tout ce passage, et particulièrement dans les 10 premiers versets de ce chapitre, nous avons vu comment Boaz s'est comporté dans cette affaire. Sa conduite est irréprochable. Il aurait pu, connaissant maintenant Ruth d'un peu plus près que celui qui avait droit de rachat avant lui, il aurait pu peut-être passer par-dessus les conventions et les lois et prendre Ruth immédiatement comme épouse. Mais il était respectueux des lois et de la loi de Moïse. Vous avez, dans ce texte, vous avez deux choses qui concernent en effet la vie du juif pratiquant, de l'israélite pratiquant. Il y a ce que l'on appelle le droit de rachat, et puis, il y a le droit du beau-frère, le lévirat. Lévirat du mot lévir, qui veut dire beau-frère. Il y avait donc dans la loi ces deux instructions. Si quelqu'un venait à mourir en Israël, ses biens devaient être rachetés par quelqu'un de proche, le plus proche possible. C'est pourquoi Boaz dit à ceux qui étaient rassemblés devant à la porte de la ville, il leur dit, il y a un tel qui a droit de rachat sur les biens d'Élimélec, notre frère. Et c'était donc à la famille, aux plus proches parents, en premier lieu de racheter les terres et tous les biens du défunt. C'est ce que l'on appelle le droit de rachat. Et qui a payé le prix le plus important pour nous racheter, nous pauvres créatures? Nous étions des pécheurs perdus. Oui, la conduite de Boaz est irréprochable. Et la moitié de ce chapitre nous parle comment il agit. C'est une belle figure de Christ. C'est dans la clarté et la droiture que Jésus-Christ a toujours agi. Aussi, il pouvait dire aux Juifs de son époque, qui de vous me convaincra de péché? Ça, c'est un verset de l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 46. Comme Christ, Boaz agit selon les règles et les coutumes établies de son temps. Jésus a agi toujours dans la droiture et l'observation des règles et des coutumes de son époque. Il ne fait rien d'illégal. Il est prêt à laisser la place au proche parent qui a le droit de rachat avant lui. Tout se passe à la porte de la ville, là où se rendait la justice, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous demande d'être comme Boaz, des enfants de Dieu irréprochables. Vous voyez ce que dit l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Il nous est dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Voilà ce que le Seigneur nous demande de chacun de nous. Et quelle autre que connaissons-nous de plus difficile que ce monde d'aujourd'hui ? Afin que vous soyez au milieu d'une génération perverse et corrompue, n'y a-t-il pas de perversité et de corruption dans le monde? Plus que nous ne l'avons jamais connu jusqu'à ce jour. Et le Seigneur nous demande d'être au milieu de cette génération comme des flambeaux qui brillent et qui illuminent. Des enfants irréprochables. N'oublions pas que notre devoir c'est de nous soumettre aux autorités et aux lois. Il y a beaucoup de textes dans l'Écriture qui nous rappellent cela. Il y a Romains chapitre 13, il y a Tite chapitre 3, et j'aimerais vous lire ce verset de Tite chapitre 3, verset 1, qui dit « Rappelle-leur d'être soumis aux autorités, aux magistrats, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Nous n'avons pas à combattre les autorités établies, car d'autres passages nous disent que c'est Dieu qui a établi les autorités, qui les a permis, et nous devons le respect et l'obéissance aux autorités établies. Donc, Boaz a tout fait selon les règles de son époque, le droit de rachat. Il y avait quelqu'un avant lui, il lui dit, voilà, tu as là l'affaire en main, notre frère Élimélec est mort, sa veuve a vendu la parcelle de terre qui appartenait à Élimélec et à ses enfants, tu as le droit de rachat en premier, rachète si tu le veux. Maintenant, si tu ne veux pas, dis-le-moi. Et cet homme qui est arrivé, qui avait le droit de rachat avant lui, que représente-t-il dans cette histoire? Nous avons dit que Boaz représentait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'était quoi? C'était la grâce, la paix. C'était la réalisation de la loi, l'abolition de la loi. Il a accompli la loi parfaitement à notre place. Alors, celui qui avait droit de rachat avant lui représente la loi de Moïse. Cette loi qui demandait toujours à ceux qui étaient soumis à elle de faire ce que la loi enseignait. Si vous péchez contre l'un de ces commandements, dit la parole, vous avez péché contre tous les commandements. Donc cet homme qui avait droit de rachat avant Boaz, il représente pour nous dans cette histoire la loi. Et cet homme dit, je rachète. Et Boaz va insister, lui dire, attention, quand tu rachètes, tu vas racheter effectivement tous les biens qui appartenaient à notre frère Élimélec, mais tu vas prendre également pour épouse Ruth, afin de lui donner une succession. Et je vous ai dit tout à l'heure que ceci concernait ce que l'on appelle la règle du Lévirat. C'est la règle du beau-frère. Quand un homme venait à mourir en Israël, s'il laissait une veuve, il fallait que ce soit l'un des frères qui prenne cette veuve comme femme et qu'il donne à cette veuve une descendance, un fils. Et le fils qui naîtrait de cette union aurait tous les droits du premier mari, afin que le nom de cet homme ne soit pas effacé en Israël. C'était la loi du Lévirat, du beau-frère. Et il y a eu des cas où certains ne voulaient pas prendre pour épouse la femme de son frère. Alors, elle se rendait à la porte de la ville où se rendait la justice et elle dit, voilà, un tel n'a pas voulu me prendre pour épouse à la mort de mon mari. Et devant tout le peuple, elle le maudissait, elle lui crachait à la figure. Puis elle prenait un soulier et elle le jetait contre ce personnage. Ça, c'était la loi rapportée dans la loi de Moïse. Alors, Boaz lui rappelle cette loi. Il lui dit, tu es le premier dans la lignée, à côté d'Élimélec, le premier qui a le droit de rachat. Mais tu acquerras pour toi aussi Ruth, qui n'a pas eu de descendance avec Machlon. Alors, quand il a vu ça, celui qui avait le droit de rachat en premier a dit, non, je ne peux pas racheter parce que je crains pour mon héritage propre. Alors, rachète-toi si tu veux. Et puis, il a pris son soulier, l'a donné, l'a tendu à Boaz. C'était la coutume, nous avons lu cela, n'est-ce pas, dans le texte. C'était la coutume en Israël pour sceller une affaire, un échange, un rachat. Maintenant, nous allons voir la suite de cette affaire. Boaz va donc racheter tous les biens d'Élimélec et bien sûr, il va prendre pour épouse Ruth, la Moabite. Nous avons dit tout à l'heure en introduction que Boaz, le nom de Boaz veut dire en toi et la force. Et les anciens qui étaient à la porte de la ville et qui rendaient la justice et qui ont assisté à cet échange ont dit dans le verset 11 que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Puis manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Cette force va être manifestée car la force est en lui. Et de quelle manière va-t-il manifester cette force et cette grâce ? Eh bien, il va épouser Ruth la Moabite. Et il va avoir un enfant. Ce premier enfant qui naîtra de cette liaison, de ce mariage. Et nous lisons maintenant dans ces derniers versets, les voisines, le verset 17, il est dit, les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Obed signifie serviteur. Et il deviendra, nous voyons, après la généalogie qui suit, les versets qui suivent, il sera le grand-père de David, le roi. Ce qui veut dire que Ruth était l'arrière-grand-mère de David. Et au début de cette étude, il y a quelques mois maintenant, nous avons dit que Ruth était étrangère au peuple d'Israël. Mais malgré cela, son nom figure dans la généalogie de Jésus-Christ. Vous prenez le premier chapitre de Matthieu, vous lisez la généalogie de Jésus-Christ et vous trouvez le nom de Ruth. Alors la postérité de la femme Obed est encore un type de Jésus-Christ. Car, et nous l'avons lu dans ce verset 15, « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. » Il restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Qui peut nous restaurer ? Qui peut nous racheter, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Qui peut être celui qui nous donne toutes les forces morales, spirituelles, physiques peut-être même ? Sinon Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le serviteur. Jésus a dit, dans l'Évangile, il est dit qu'il est venu comme celui qui sert. Il n'est pas venu comme le roi. Le peuple voulait le faire roi. Il voulait prendre Jésus, l'amener à Jérusalem et l'introniser comme roi d'Israël. Mais ce n'est pas pour cela qu'il était venu. Il n'était pas le roi. Il était le serviteur. Celui qui sert. Et avant tous les titres de gloire de notre Seigneur Jésus, voilà son titre le plus merveilleux, le serviteur. Marc chapitre 10 nous dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oh oui, il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors à quel prix À quel prix nous a-t-il rachetés ? Boaz a dû donner un prix inestimable pour racheter les biens d'Élimélec et prendre pour épouse Ruth. Mais le Seigneur Jésus a payé un prix encore plus inestimable. Il a donné sa vie. À quel prix nous a-t-il rachetés ? À un grand prix. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et puis encore dans ce même livre de l'Épître aux Corinthiens, il est dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Quel est ce prix ? C'est le prix de son sang. Dans Matthieu chapitre 20, il est dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais pour être servi et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 7, il est dit « En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Voilà le prix payé. Ce prix payé qui est le sang versé à la croix du calvaire. C'était le prix de la victime. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, les Juifs devaient offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Et l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Il devait y avoir un sacrifice et du sang versé. Et Jésus a été cet agneau de Dieu. Quand Jean le voyait venir à lui, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est lui qui a payé de son sang. C'est lui qui a donné son sang et sa vie. Notre rédemption est une rédemption éternelle. Sous la loi, les sacrifices devaient être renouvelés chaque année pour le pardon des péchés. Le souverain sacrificateur offrait le sacrifice sur l'autel du sacrifice, il en recueillait le sang, et avec le sang, il entrait dans le lieu très saint et il en faisait l'aspersion sur l'arche de l'Alliance pour la rémission des péchés du peuple. Mais cette opération se renouvelait d'année en année. Christ, lui, a offert une fois pour toutes son sang en sacrifice pour le péché. Alors nous sommes rachetés. Jésus est notre racheteur ou notre rédempteur. Mais nous sommes rachetés de quoi ? La parole de Dieu nous donne plusieurs pensées. Dans Galates chapitre 3, il nous est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ensuite, dans 1 Pierre 1, nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Dans l'Épître de Tite, il nous est dit « Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. » De toute iniquité, c'est-à-dire de tout mal. J'ai voulu savoir aussi quel était le sens que le monde, autre que chrétien, donnait le sens que le monde donnait au mot iniquité. Et il nous est dit injustice grave. Corruption des mœurs, dépravation, état de péché. Voilà ce que c'est que l'iniquité. Et donc, il nous a rachetés de toute iniquité. Dans l'Épître aux Galates, il nous est dit que nous avons été rachetés du présent siècle mauvais. Il dit « Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour mes péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Pour qui avons-nous été rachetés? Et Apocalypse 5, verset 9, nous dit, nous avons été rachetés pour Dieu. Oh, puissions-nous assimiler cette pensée que si Jésus a payé un grand prix, un prix inestimable par sa mort sur la croix, c'est pour nous racheter pour son Père, pour que nous soyons des enfants de Dieu irréprochables dans ce monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour terminer, je voudrais simplement parler d'autre chose concernant ces paroles qui ont été prononcées d'abord par les anciens à la porte de la ville et ensuite par les femmes qui ont parlé à Naomi, n'est-ce pas, concernant cette union de Ruth avec Boaz et la naissance de cet enfant. C'est des cantiques de louange, ce sont des cantiques de reconnaissance, ce sont les cantiques des rachetés. Il y a un psaume que je voudrais, trois versets dont je voudrais lire dans ce psaume, c'est le psaume 107. Et je lis dans ces versets, au début du psaume 107, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. » Tous les rachetés. Ah, chers frères et sœurs, chaque dimanche, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous sommes réunis pour louer celui qui nous a rachetés. Nous qui étions des pécheurs perdus, nous ne méritions pas cela. Nous étions des pécheurs vraiment condamnables. Et notre condamnation, c'est lui, Jésus, qui l'a porté à notre place sur la croix du calvaire. Comment ne pas reconnaître qu'il mérite la louange et l'honneur de tous ses rachetés? Combien nous serions heureux de pouvoir chanter ces cantiques de louange. En Exode, chapitre 15, et au verset 13, il est dit, « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » Et puis dans Apocalypse, chapitre 5, verset 6, vous savez que c'est un passage que l'on lit souvent dans les cultes d'adoration, n'est-ce pas? C'est lorsque l'apôtre Jean a cette vision du ciel et de l'endroit où se trouve l'agneau qui était comme immolé, n'est-ce pas? Il nous est dit, et à la fin de au verset 6, il nous est dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Et toujours dans ce même chapitre, un peu plus loin, il est dit, « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. » Alors, en conclusion, chers frères et sœurs, et chers amis, un verset d'Apocalypse, chapitre 17, nous dit, « Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Sommes-nous rachetés? Pouvez-vous dire tous, réellement, au plus profond de votre cœur, dans votre conscience personnelle, pouvez-vous dire que vous êtes rachetés par Jésus-Christ? Si vous l'êtes réellement et sincèrement, vous ne pouvez pas faire autrement que de chanter les louanges de ce Sauveur merveilleux. Sommes-nous rachetés ? Croyons-nous que Jésus-Christ est mort pour nous racheter et nous pardonner ? Alors si oui, nous pouvons chanter à la gloire de notre Seigneur. Sinon, alors je vous invite au plus vite à rencontrer ce merveilleux Sauveur, ce merveilleux Rédempteur, celui qui n'a pas hésité à aller jusqu'à la mort et la mort infâme de la croix. Donnez votre cœur à ce Sauveur. Un verset de la Bible nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il veut en faire sa demeure. Et si vous ouvrez votre cœur au Seigneur, il entrera dans votre cœur et il habitera dans votre cœur. Souvenez-vous de ce verset de l'Apocalypse aussi qui dit, voici, je me tiens à la porte, de votre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quel autre moment de communion plus intime pouvons-nous avoir qu'un souper avec notre Seigneur et notre Sauveur ? Ce que nous rappelons à peu près régulièrement tous les 15 jours par la scène du Seigneur. C'était au cours de ce souper mémorable que le Seigneur a dit aux siens tout ce qui allait arriver, qu'il devait connaître la souffrance et la mort. Et lorsqu'il a parlé de ces choses, le Seigneur Jésus a vu que leur cœur était troublé, abattu. Alors il leur dit, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voulons-nous être là où il est ? Avons-nous ouvert notre cœur à la grâce de ce Seigneur qui nous a tant aimés, qui a payé un prix inestimable ? Nous l'avons vu. Si oui, il revient bientôt. Il l'a promis. Et lorsque j'aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Que le Seigneur soit béni pour cela. Amen. Prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et notre Père, combien nous te remercions d'avoir pensé à notre faiblesse, à notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Et tu as pourvu toi-même un sauveur, celui qui devait donner sa vie pour nous racheter et nous acquérir un salut éternel. Ton fils, ton propre fils, celui en qui tu avais mis tout ton plaisir. Et cette voix qui s'était faite entendre du ciel, nous voulons l'entendre aujourd'hui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Oh, nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs à ta grâce, te demander d'entrer dans nos vies, de nous pardonner peut-être nos résistances du temps passé, nos péchés, et nous laisser gagner par ta grâce. Que ton nom, ô Seigneur Jésus, soit béni aujourd'hui et jusque dans l'éternité.